Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est l'écrivain. Il n'est pas seulement écrivain, Jean-Christophe Ruffin. Mais là, on parlait surtout de son nouveau roman Les Flammes de Pierre. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis évidemment, Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les surprises médiatiques. Et mercredi dernier, vous avez fait une très bonne de surprise en regardant un documentaire signé Bernie Bonvoisin sur LCP, la chaîne parlementaire.
Oui, alors lorsqu'il s'est fait connaître, Philippe, au tout début des années 80, Bernie Bonvoisin était le leader du groupe Trust, un type qui avait la rage et qui hurlait ça.
L'antisocial, tu perds ton sang-froid.
Eh bien, 40 ans plus tard, Bernie Bonvoisin n'a rien perdu de sa révolte, mais il ne la chante plus, il la met désormais en image. Le documentaire qu'il vient de réaliser s'appelle « Mort sociale jeunesse de France » et il est, comme son titre l'indique, consacré aux difficultés que rencontrent de très nombreux jeunes gens dans notre pays. Bernie Bonvoisin a choisi de poser sa caméra dans les couloirs du campus de l'université de Nancy et il y a recueilli des témoignages poignants, comme celui de Logan, qui tente d'étudier dans des conditions on ne peut plus compliquées.
Il vous reste combien pour vivre tous les mois ?
Avec la CARS et avec la café et le Crous, 7 euros.
C'est... 7 euros ?
7 euros, d'après ce que...
7 ?
Oui.
Mais comment on fait pour vivre avec 7 euros ?
Ben, on ne peut pas, c'est impossible.
Voilà, alors des paroles comme celle-ci, Philippe, il y en a de nombreuses dans le documentaire. Elles sont toutes saisissantes, mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ce film, ce ne sont pas les témoignages, mais bien ce que Bernie Bonvoisin en fait.
Ce que je trouve effarant, c'est d'arriver à des situations comme la vôtre, où vous avez 7 euros pour vivre. Je trouve ça tellement anormal.
Car ici, la forme est extrêmement singulière. Bonvoisin n'enquête pas, il dit « je ». Il ne livre pas un travail de journaliste, son film est un cri du cœur, ou plutôt... une énorme baffe qu'il adresse à ceux qui nous gouvernent.
Chez nous, elle est en marche, la pauvreté du millénaire. Ma France suinte et la misère dans toutes ses villes, et baisse ses yeux, c'est plus pratique.
Car rien n'est classique chez Bonvoisin. Chez lui, on ne fait pas de commentaires en parlant comme à la télé. Et on ne décrit pas les images qu'on a déjà sous les yeux. Non, on fait claquer les mots et on les slame.
Une génération est en totale détresse, on verra ça plus tard. Pour l'instant... rien ne presse.
Mais surtout, surtout, on s'engage. Les allusions à la politique d'Emmanuel Macron sont légion et la critique y est ferme. Comme lorsque Bernie Bonvoisin évoque les prêts étudiants consentis par un jeune homme qui, à 22 ans, a déjà 22 000 euros à rembourser.
Sébastien a un coup près bancaire au-dessus de sa nuque. La vie est devant, mais il passe son temps à regarder derrière. Peut-être devrait-il tout simplement traverser la rue et trouver un travail.
Bonnet rouge vissé sur la tête, le Bernie Bonvoisin documentariste est une sorte de Philippe Etchebès qui aurait bouffé toute crue une Élise Lucet au petit-déj. Il est aimable avec les étudiants, mais gare à la vice-présidente de l'université lorsqu'elle tente de lui expliquer qu'elle a fait tout, absolument tout, ce qui était en son possible.
Moi j'estime qu'à l'université, on a pris nos responsabilités, on a fait notre travail.
Elle est d'abord reçue ironiquement.
Bon, super. Bravo.
Avant d'être tensée très vertement dans un style auquel la télé est assez peu habituée.
Vous me faites un bilan de tout ce qui a marché et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Vous voulez que je vienne avec une caméra, écouter votre bilan et repartir et dire « Putain, ces gens sont formidables ».
Eh oui, antisocial un jour, antisocial toujours. Enfin, pour conclure, Philippe, on soulignera tout de même que ce documentaire plus qu'engagé, que vous pouvez revoir en accès libre sur le site de LCP, est diffusé donc sur la chaîne parlementaire, la chaîne de la représentation nationale, qui fait donc entendre toutes les sensibilités, une jolie preuve d'audace et d'indépendance, à méditer peut-être, par les complotistes de tout poil qui, croyant trop souvent voir dans les médias un immense trust idéologique, perdent régulièrement leur sang-froid.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.
À demain.
Stéphanie Loire, le programme de votre indispensable ce matin, ce sera aux alentours de 10h30.
Et ce sera Angèle qui sort un nouveau single, donc je vous emmène à Bruxelles puisqu'elle aime sa ville, elle lui déclare sa flamme.
On est content. Dans un instant, nous serons avec l'écrivain Jean-Christophe Ruffin. C'était pas ironique, on est même très content, si vous voulez que je vous le dise, de la manière dont
j'espère.
Je le pense réellement. Il va nous parler de son nouveau roman, mais d'abord musique, c'est Bruno Mars et Anderson sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Kate, c'était Bruno Mars et Anderson sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Philippe.
Comment vous présentez ? Vous avez une trajectoire unique, médecin, vous avez fait Sciences Po en plus de médecine, vous avez été engagé à 20 ans dans l'humanitaire, vous avez été vice-président d'MSF, Médecins Sans Frontières, vous avez été président d'Action Contre la Faim, je le dis à chaque fois, et vous êtes aussi connu comme écrivain et pas qu'un peu, prix Goncourt avec Rouge Brésil, et c'est pas fini, vous avez été reçu en 2008 à l'Académie Française, vous avez été ambassadeur de France au Sénégal de 2008 à 2011, vous nous avez appris le mot Katiba que j'ignorais sans vous, mot que j'avais découvert dans un roman, votre actualité. C'est un nouveau roman, Les Flammes de Pierre, c'est chez Gallimard, roman très particulier parce qu'il commence par une réflexion sur l'art du roman. En regret, dites-vous, il n'y a plus de grands romans de montagne façon Premier de Cordée de Frison Roche. Ça m'a rappelé ce que je lisais quand j'avais 12-13 ans. Et du coup, vous décidez d'en faire un.
Oui, on peut dire c'est
en
comme ça.
En toute modestie.
Non, mais ça fait 20 ans que je regrette qu'il n'y ait plus ce type de littérature et 20 ans que je cherche le moyen de renouer avec ça. Alors, ça n'a pas été aussi facile que vous avez l'air de le suggérer. Mais oui, c'est vrai, c'est un peu... Il y a eu un âge d'or avec... Bon, nous, on pense à Frison Roche, mais les Suisses parleront de Ramu, les Italiens de Rigonisterne, etc. Il y a un âge d'or, les années 40, 50. À cette époque-là, l'alpinisme était un héroïque. Vous savez, il y a la figure du guide, il se sacrifiait, puis c'était un alpiniste de conquête. Alors, on plantait le drapeau sur les sommets, etc. Alors, ça se prêtait bien.
Il restait encore des sommets à conquérir.
Voilà. Il y avait un côté vierge, découverte, exploration. On le voyait dans l'Himalaya. Les Français ont pris l'Annapurna, les Italiens le K2, les Anglais l'Everest. Vous voyez, c'est une guerre un peu de...
Bon. Et on revenait sans les doigts. C'était tragique, héroïque.
Oui, c'est ça.
Mais maintenant, c'est moins dangereux. Donc, peut-être que ceci explique cela.
Voilà. C'est-à-dire que dans les années 70, on a eu Patrick Edlinger, rappelez-vous.
Il montait à main nue, le souvenir que j'en ai.
Oui, c'est ça. Mais ce n'était pas tellement le problème que ce soit à main nue. C'était surtout une éthique, vous savez, un dépouillement. Il avait son petit short, son bandana et puis un petit sac de magnésie dans le dos. Et là, tout à coup, il n'y avait plus que le geste, la grâce. On ne parlait plus ni de la souffrance, ni de la mort, ni du danger. Tout était beauté, légèreté, etc. Voilà. Et l'alpinisme, à ce moment-là, s'est prêté plus aux images qu'aux mots. C'est-à-dire qu'il y a eu des films, à ce moment-là, sur tout ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue romanesque, ça manquait un peu de tragique, si vous voulez. Même si ça s'est mal terminé pour Edlinger, parce que le pauvre, il est mort à 50 ans, alcoolique, en tombant dans son escalier. Vous voyez, ça se termine parfois assez mal. Mais disons que tout ça ne se prêtait pas à un récit romanesque.
Alors, il y a un récit romanesque dans le récit romanesque. Tout ceci étant chassé, parce que tout part d'une histoire vraie, si j'ai bien compris. Le jour d'une course en montagne avec celui que vous appelez Sylvain, dont on a appris que c'était Sylvain Tesson, que vous remerciez à la fin du livre, racontez l'histoire.
Oui, c'est une idée idiote de Sylvain, comme il en a pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une petite aiguille au-dessus de Chamonix qui s'appelle l'aiguille de la République, qui était infranchissable à la fin au début du XXe siècle. Et il y a un chasseur de chamois qui a eu l'idée de monter avec son arbalète et de tirer à ce moment-là sur un carreau d'arbalète, ce qui a permis d'arrimer une corde et puis de se tirer dessus. Alors Sylvain a eu l'idée qu'on remonte avec une arbalète et l'arrière-petite-fille du premier ascensionniste. Et on a fait ça en effet il y a 3 ans. Je raconte ça parce que c'est à l'occasion de ça, en descendant, en rappel, dans le noir, etc., qu'on a eu cette conversation sur la littérature de montagne. D'habitude, on ne parle que de choses sans intérêt, et plutôt on se marre et on raconte des conneries.
Small talk.
Et là, tout d'un coup, à cause peut-être de l'angoisse, vous voyez, la peur qui était autour de nous, on s'est mis à parler de ça, et notamment de la figure du guide. Voilà. Et là émerge ce qui est le thème du récit, c'est-à-dire la figure d'un guide, mais qui n'est pas du tout héroïque. Pas du tout. Lui, sa tragédie, elle est d'ordre amoureux, elle n'est pas d'ordre sportif.
Et dans le premier chapitre du roman, il y a les prémices de ce que va être le roman dans les chapitres suivants. Tiens, justement, on va revenir aux prémices. Jean-Christophe Ruffin, c'est Lisa Marie Marquez qui va nous rejoindre. Elle va faire ce qu'on appelle le portrait préfème de l'invité. Qu'est-ce qui vous est arrivé avant que vous soyez connu ? Quand vous êtes connu, c'est dans les papiers. Mais avant, on ne le sait pas. Culture Média continue. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'écrivain Jean-Christophe Ruffin. On va parler de son livre Les Flammes de Pierre. Mais on va mieux vous connaître, Jean-Christophe Ruffin, avec le portrait préfème de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
Vous avez une feuille de route impressionnante. Vous avez fait 1000 choses. Vous êtes écrivain, académicien, mais aussi médecin, figure de l'action humanitaire, diplomate et passionné d'alpinisme. Vous êtes la preuve qu'on peut avoir 1000 vies. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jean-Christophe Ruffin, vous êtes né à Bourges et c'est là que vous avez grandi, au pied des flèches de la cathédrale. Une enfant solitaire et calme auprès de votre mère et de vos grands-parents. Vous êtes un enfant rêveur, un peu isolé. À la maison, vous n'avez pas de téléphone et pas de télévision.
Ah oui, c'est l'époque. Hein.
Ouais. Chez moi non plus. Hein.
Ouais.
Votre seule ouverture sur le monde, ce sont les livres. Et ce qui a commencé à vous passionner très jeune, c'est l'histoire de votre région. À 7 ans, vous dévorez les manuels de Mallet et Isaac. Vous collectionnez les soldats en plastique qu'on trouve dans les boîtes de café.
Des dents, vous en savez des choses.
Ouais. Je savais pas non plus.
Quand on est enfant, il y a l'école et puis il y a les vacances. Mais pas pour vous, Jean-Christophe Ruffin. Jusqu'à vos 10 ans, vous ne partez pas en vacances. Vous restez à Bourges avec vos grands-parents. Et votre grand-père, qui avait été déporté pendant la guerre pour fait de résistance, n'est pas des plus causants. Quand vous découvrez finalement les vacances à la mer, là, ce n'est pas un bon souvenir, puisque sur le trajet en voiture, il y a les virages de la Chaise-Dieu qui vous font vomir et vous vous faites gronder parce que vous êtes malade.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est pour ça que vous avez fait médecine ?
Oui, j'aurais dû. J'arrivais sur la côte, j'étais complètement lessivé. Non, j'ai détesté ça. Ouais.
Jean-Christophe Ruffin, vous partez ensuite vivre à Paris. Vous êtes scolarisé au lycée Janson de Sailly, dans le 16e arrondissement, dont vous vous faites exclure.
Ah oui, ouais. Sur quel motif ?
Ils m'ont foutu à la porte. Bah, je pense que ma mère s'occupait pas beaucoup de moi, elle travaillait, la pauvre, et donc j'étais pas très conforme à l'époque. C'était vraiment le lycée de la bourgeoisie, et donc c'était pour des raisons sociales, je dirais.
Et vous n'étiez pas un bourgeois ? Vous vous sentiez déclassé.
Ah oui, tout à fait.
C'est
oui,
drôle parce que
ça me fait sentir d'ailleurs.
C'est drôle parce que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le personnage de Rémi qui se sent déclassé une fois qu'il monte à Paris, ce guide de montagne, et qui n'a pas les codes parisiens.
Exactement. Bah, moi, j'ai été exactement dans cette situation et c'est drôle parce que j'en veux pas grand monde dans la vie, mais ce lycée Janson de Sailly, moi, ils m'ont proposé d'être ancien élève, machin. J'ai dit allez vous faire voir.
Après le bac, vous partez à la montagne avec une copine du côté de Tignes. Vous découvrez la randonnée et l'alpinisme et vous attrapez le virus des cimes. Dès lors, la montagne aura une grande importance dans votre vie. Vous multipliez les stages d'initiation à l'alpinisme du Club Alpin Français. En 1969, vous vous inscrivez en fac de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Vous étudiez année après année jusqu'à l'internat de Paris où vous êtes reçu 39e sur 300.
Oh là là, mais quelle précision.
Mais j'en ai pas. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait un classement, il y a toujours le classement ou pas ?
Ben non, mais à l'époque, c'était un internat par ville. C'était l'internat dans sa forme napoléonienne. Et puis maintenant, ça n'existe plus. C'est un internat national. Mais donc, il y avait un classement, oui.
Pendant vos études, vous faites ce que l'on appelle un service civil qui consiste à exercer la médecine dans un pays en développement. Vous choisissez la Tunisie et là-bas, vous achetez une vieille Peugeot que vous démontez totalement, vous la disséquez, vous mettez tout dans la rue, puis vous la remontez et vous partez avec pour traverser le Sahara. Preuve que vous aimez tout comprendre par vous-même et que vous êtes un aventurier dans l'âme.
Bah à l'époque, on pouvait tripoter les voitures, il n'y avait pas d'électronique, ouais. Alors c'était facile. Et
mais puis, pourquoi l'avoir démonté ?
Eh bien, pour apprendre à la remonter. Non, mais parce que dans le Sahara, il n'y a pas de garage. Hein, ouais. Ça n'a pas échappé. Et à l'époque, c'est vrai que c'était le plus grand danger, c'était de se retrouver en panne au milieu de rien. Donc,
En prévision de...
Ouais.
Jean-Christophe Ruffin, après vos études de médecine, et parce que ça ne vous suffit pas, vous étudiez à Sciences Po. Mais l'humanitaire vous rattrape. Vous vous engagez aux côtés de Médecins Sans Frontières en Éthiopie, au Nicaragua, en Afghanistan. Ces missions vous inspirent votre premier essai, Le piège humanitaire, une réflexion sur l'instrumentalisation des politiques d'aide. Vous devenez aussi directeur médical d'Action contre la faim.
Je me souviens de ce livre, je l'avais lu, je ne me souvenais pas que c'était vous. Bah, vous n'êtes pas fait que des copains avec ce livre.
Non, mais c'est un livre utile quand même, parce que ça a permis vraiment de réfléchir à ce qu'on faisait et montrer qu'il y avait une mémoire dans l'humanitaire. Chaque fois, ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était...
Et de montrer le sens des choses et des limites. Je me souviens de ceci.
Ouais.
Puis vous vous tournez vers la diplomatie. C'est comme ça que vous devenez conseiller du secrétaire aux droits de l'homme, Claude Maluret, puis attaché culturel et de coopération au Brésil. De retour en France, vous vous mettez à écrire. Mais votre premier livre n'a jamais été publié. Il se déroule au Vietnam, à Hanoï, après la Seconde Guerre mondiale.
Mais comment vous savez tout ça ?
Elle sait beaucoup de choses.
Attends, les éditeurs, ils vous appellent pour vous dire que la première partie est pas mal, mais que la suite est trop mauvaise pour être publiée. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Ils m'ont sauvé la vie, d'ailleurs, parce que s'ils avaient publié ça, je crois que j'aurais pas forcément fait la carrière que j'ai faite après. Oui, oui. Non, il faut toujours sauter le premier roman, de toute façon, passer au deuxième, tout de suite.
Jean-Christophe Ruffin, vous ne vous découragez pas pour autant, vous avez des contacts d'éditeurs et ils vous ont encouragé à continuer. En 1995, vous vous enfermez 3 semaines pour écrire. 2 ans plus tard, votre premier roman, L'Abyssin, est publié, récompensé du prix Goncourt du premier roman, encensé par la critique et énorme succès en librairie. 15 semaines sur la liste des best-sellers. Le grand public découvre Jean-Christophe Ruffin, écrivain, et ce n'est que le début. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci.
Ouais, c'est impressionnant. Hein. Elle s'est arrêtée même avant le concours.
Oui, c'est une psychanalyse, c'est une archéologie.
Ouais.
Oui, mais tout est juste. Merci beaucoup. Je crois que c'est Lamartine qui disait qu'il faut traverser une petite vie avant d'arriver à une grande vie. C'est vrai que je ne prétends pas avoir une grande vie, mais disons qu'il y a un accomplissement, des titres, des honneurs, etc., qui cachent un peu la façon dont les choses se passent, qui sont beaucoup plus simples. Et je pense que même pour les plus jeunes, quand ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, machin, ben je les renvoie plus à cette période-là, c'est-à-dire une période où on ne sait pas où on va, où tout est possible, où on part un peu dans toutes les directions, puis où les choses se mettent en place. Parce qu'après, c'est moins intéressant. Hein,
non, mais ce qui est impressionnant chez vous dans votre parcours, ce ne sont pas les titres ni les honneurs, quoique ça compte quand même, c'est la quantité de savoir que vous possédez. Vous êtes la seule personne que je connais qui sait faire de l'alpinisme, qui a eu le prix Goncourt et qui sait démonter une 404. Sans parler de l'humanitaire et de la lutte quand vous étiez ambassadeur contre les réseaux terroristes.
Non, mais c'est la même chose tout ça.
C'est-à-dire
oui, parce que la médecine et la mécanique auto, si vous voulez, c'est pas très différent. C'est un peu du bricolage, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas fait de la biologie, j'ai pas fait des choses théoriques. J'aime bien quand il faut visser des boulons. Et écrire un roman, c'est pareil, c'est beaucoup de boulons à visser. Hein.
Et vous écrivez très, 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 très vite. Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. Nous, on se retrouve dans un instant, toujours en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. L'émission continue. On va dévisser encore des boulons et en revisser d'autres. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Christophe Ruffin, Les Flammes de Pierre, c'est votre nouveau roman. Ça se passe dans le milieu de la montagne. Vous avez bâti l'intrigue. Il y a une histoire d'amour. Comment vous l'avez construite?
En fait, ce que je voulais, c'était... essayer de rendre compte de cette passion qu'on peut avoir avec la montagne en la tricotant avec une histoire d'amour. Parce qu'au fond, c'est un peu la même chose. Et il y a un couple, donc c'est deux qui viennent à la montagne par deux voies différentes. Il y en a un, lui, il est alpiniste, c'est son métier, il est guide, Rémi. Et puis Laure, c'est une fille qui travaille dans la finance à Paris et qui vient de temps en temps faire du ski. Bon, ils se rencontrent. Ouais. Et là, il y a une sorte de coup de foudre, mais ça reste très superficiel finalement.
Parce qu'en fait, ce qui les réunit, c'est la montagne, mais sinon ils n'ont pas grand-chose à se dire, ils viennent de milieux sociaux très différents.
Ouais, mais la première étape de la relation, c'est une relation superficielle entre eux, au fond elle est contente de venir se taper le beau guide, lui il est content d'être avec une jolie fille, etc. Mais ils sont superficiels entre eux et ils sont superficiels aussi avec la montagne. Hein. Ils viennent quand il fait beau et tout.
Je connaissais le classique Eros et Thanatos, c'est-à-dire l'amour et la mort. Et en montagne, dans ce roman, vous semblez remplacer la mort par la peur. En quoi la peur est-elle constitutive de la montagne et de l'alpinisme? Que la peur vient-elle faire là? Parce qu'elle est souvent présente.
C'est ce qu'ils vont découvrir petit à petit. C'est-à-dire que la montagne, ce n'est pas seulement beau temps, on fait du surf sur une bonne neige avec le soleil. C'est la vraie montagne, c'est plus tragique. Il y a quelque chose qui effectivement... Moi, elle a toujours été présente, la peur. Mon premier contact avec la montagne, quand j'étais tout gamin, c'était vraiment ça qui a dominé la peur. Mais après, la peur, on la maîtrise. Et ça, c'est une source de plaisir. C'est-à-dire que quand vous avez, si vous voulez, cette énergie en dessous là, de peur, de risque, etc., mais que vous êtes capable de la piloter en quelque sorte, hein, de chevaucher le tigre, comme dirait le président de la République. Mais c'est vrai que c'est assez jouissif. C'est-à-dire que on fait tout pour réduire le danger.
On fait tout pour réduire ou pour l'augmenter? Parce que non, quand on fait de la montagne, c'est une question de béotien. Mais ouais. Moi, j'ai le mal de mer, donc il ne viendrait jamais à l'idée de faire la navigation. Si j'avais peur en montagne, il ne viendrait jamais à l'idée d'aller en faire. Vous me dites, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à conjuguer, maîtriser sa peur. Ouais. Une fois que vous arrivez à ne plus avoir peur, vous faites quoi? Vous continuez à vous balader sans avoir peur ou au contraire, vous choisissez des courses de plus en plus difficiles pour que cette peur-là, que vous avez réussi à éviter, revienne?
Il y a une phrase de Gaston Rébuffat, un grand alpiniste, qui disait « Cherchez la difficulté, mais non pas le danger ». C'est-à-dire, à partir du moment où effectivement on maîtrise quelque chose, Évidemment, il faut que ça soit un peu plus dur, parce que si c'est pour faire que des trucs plan-plan, des ascensions faciles, etc., au bout d'un moment, on s'en lasse. Donc on cherche la difficulté, mais pas le danger. Le danger, on continue à minimiser. Quand vous marchez sur un glacier, vous vous encordez à 15 mètres. Voilà, il y a des règles, si vous voulez, qu'il faut les suivre, et à partir de là... Eh ben, on y va.
On y va. Vous avez fait des confidences à Paris Match dans le numéro du 14 octobre. Vous avez dit avoir eu un accident de montagne il y a 2 ans au Sultanat d'Oman. Vous dites, ouais. Une prise m'est restée dans les mains. J'ai été sauvé 3 mètres plus bas par un coinceur, c'est-à-dire un point d'assurage. Vous êtes fait mal ?
Ah oui, je me suis bien défoncé l'arrière du bassin, là. Oui.
Et c'est pas tout. Vous dites, les douleurs ont redoublé cet été après un mauvais atterrissage en parapente. Ça ne vous a pas calmé?
Bah non, parce que si vous voulez, je crois que dans la vie, il faut, tant qu'on peut, hein, il faut essayer de soigner le mal par le mal. C'est-à-dire que s'arrêter, ne plus rien faire, se reposer, pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était un traitement, quoi. Voilà, il faut au contraire essayer d'aller de l'avant.
Je peux dire votre âge et j'ai une question qui va avec. Vous êtes également membre de l'Académie française. Question, est-ce qu'il y a beaucoup d'académiciens de 69 ans qui font de l'alpinisme, du VTT et du parapente?
Non, je ne les emmène pas en parapente, mais bah, oui, il y en a qui font des choses aussi assez aventureuses. Par exemple, Eric Orsena, il fait du bateau, par exemple.
Oui, mais le bateau, on est assis, ce n'est pas du tout la même chose.
À bon niveau. Oui, enfin, quand il a fait le passage du Nord-Ouest là, avec Isabelle Autissier, c'était chaud patate quand même. Ouais. Non, mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est que René Deobaldia, qui vient de fêter ses 103 ans, en effet, ne fait pas de parapente. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a 103 ans, d'ailleurs. Ouais.
Vous avez vraiment écrit ce livre en 8 semaines, parce que vous faites tout, et vous faites tout vite, et si j'ose dire, tout bien, pardon de ce compliment.
Ben, c'est gentil, merci, mais en fait, il y a deux phases dans un livre. On peut dire que j'ai mis 8 semaines, mais j'ai mis aussi 20 ans. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'y pense à tout ça. Ça fait longtemps que j'essaie de construire un vrai roman qui soit un roman d'amour dans lequel, effectivement, on pénètre parce qu'on suit des personnages, mais qu'à travers eux, on découvre un monde. Ça, j'y ai travaillé longtemps, mais pour le rédiger, moi, je trouve que c'est vraiment nécessaire d'être dans une sorte d'état de grâce. C'est-à-dire que, vous savez, pour tenir ces personnages, pour tout ça, c'est assez fragile. Et si vous vous arrêtez 15 jours, vous reprenez, bah, vous avez tout perdu, vous avez tout oublié. Donc, je préfère m'immerger et écrire presque à la vitesse où le lecteur va me lire.
Les Flammes de Pierre, c'est ce roman. Il y a même de la musique. Il y a une boîte de nuit en altitude. On va continuer à parler de musique. Stéphanie Loire va nous rejoindre. Elle va nous parler du grand retour d'Angèle dans une déclaration d'amour à sa ville de cœur, c'est Bruxelles. Jean-Christophe Ruffin reste avec nous. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
On parlait de littérature avec Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Les Flammes de Pierre, c'est son nouveau roman chez Gallimard. On va parler de musique parce qu'il y a de la musique. C'est pas tout à fait de la musique. Est-ce qu'une boîte de nuit, c'est de la musique, ou est-ce que c'est d'abord un moment de secouer son énergie?
Bah pour moi, c'est plutôt du bruit, surtout quand c'est en plein air. Hein, parce que là, la boîte de nuit dont vous parlez, c'est une boîte de jour.
C'est... Il faut raconter. Elle s'appelle La Folie Douce, c'est dans votre roman. Ouais, après les rondeaux, après des journées de ski, il y a une boîte ouverte de jour en plein air. Elle existe vraiment.
Bah, elle est sur un sommet à l'arrivée d'un télésiège.
Ouais.
En tout cas à Saint-Gervais, et c'est comme une boîte de nuit, sauf que c'est dans la journée. Les gens dansent sur les tables, il y a des baffles énormes, on entend ça à 15 km à la ronde, bon ça c'est moins marrant.
Ouais.
Voilà. Et les gens viennent se bourrer la gueule, quoi, ouais. En gros. Hein.
Et ça se fait comment ?
Danser sur les tables.
Vous connaissez Stéphanie ?
Oui, j'y suis passée. Ouais. Simplement parce que j'investigue en tant que journaliste, vraiment, voilà. Pour être sûr.
Non, et alors, c'est comment ? C'est vraiment une ambiance
de feu ? Oui, c'est une ambiance de feu. C'est un resto d'altitude où il y a de la musique, on danse sur les tables, les gens boivent en effet peut-être un peu trop.
Bah, c'est, tout est fait, notamment la position de la boîte de nuit est faite pour que les clients, en particulier anglais, puissent redescendre sur Megève éventuellement à plat ventre. C'est ce que je veux dire. Oui, parce que.
Ça existe vraiment ou c'est une façon de parler ?
Ah, bah non, malheureusement, j'ai une amie qui s'est fait rentrer dedans par un de ses clients qui ressortait, qui avait du mal à faire des virages.
Il lui rentrait dedans à plat ventre.
Non, lui, il était à ski. C'était pire parce qu'à plat ventre, il n'aurait pas fait grand mal, tandis qu'à ski, elle a senti passer.
Stéphanie Loire, vous n'êtes jamais descendue de La Folie Douce à plat ventre.
Enfin, ça ne va pas ou pas. Moi, je pars en luge avec dignité.
On va parler de musique avec vous, Stéphanie. Les Belges prennent la scène musicale d'assaut. Une semaine après le grand retour de Stromae avec Santé, c'est au tour d'Angèle.
Oui, Angèle, 3 ans après la sortie de son premier album qui s'intitule Brawl, Angèle vient de dévoiler un nouveau single, Bruxelles, je t'aime. Une déclaration d'amour très dansante à sa ville natale, accompagnée d'un clip vidéo à l'univers coloré qui se joue dans un train qui relie Paris à Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. On l'écoutera en entier tout à l'heure, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est une chanson qui est née pendant le confinement et qui a été enregistrée à Bruxelles. Je suis allée rencontrer Angèle pour en savoir un peu plus sur sa genèse.
J'avais l'impression, comme dans la chanson de Dick and the Gang qui s'appelle Bruxelles aussi, qui est vraiment aussi une chanson que j'ai reprise il y a quelques années, qui avait été un peu mon premier pas là, dans ce métier sans même que je m'en rende compte. Ouais, j'avais envie de faire une déclaration d'amour. Je trouve que les chansons sur les villes, elles sont toujours touchantes parce que même quand c'est pas la nôtre, on comprend en fait.
Angèle évoque la chanson Bruxelles de Dick and Garn, un titre publié par le chanteur en 1974 qui est devenu un hymne incontournable. On écoute un extrait de la reprise qu'Angèle en avait faite en 2016. C'est ce qui lui a permis de se faire connaître.
Bruxelles, ma belle. Je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête. C'est la fête.
Une chanson pour dire son amour à une ville, à ce qui a un lieu, à ce qu'il représente, un peu comme vous, Jean-Christophe Ruffin, qui déclarait votre flamme aux Alpes dans votre roman Les Flammes de Pierre. Le deuxième album d'Angèle, très attendu, devrait sortir le 10 décembre prochain et être suivi d'une tournée. Alors on ne sait pour le moment rien dessus. J'ai tenté d'en savoir plus, mais alors sans succès, la chanteuse tient à l'effet de surprise. Elle n'a rien lâché. Son premier album, Brawl, est un triomphe. Il vient tout juste d'être certifié double diamant, puisque vendu à 1 million d'exemplaires en France. Un album porté par le succès de ses nombreux tubes, comme Tout oublié, qu'elle partage avec son rappeur de frère, Romeo Elvis. Alors Brawl, ce sont des tubes écoutés plus de 2 milliards de fois en streaming. Les chiffres donnent le tournis. Hein. 5 singles de diamant, 4 singles de platine, 6 singles d'or, une tournée triomphale et une victoire de la musique.
Et comment elle a vécu ce succès? Est-ce qu'elle a que 23 ans?
C'est ce que je lui ai demandé justement au micro d'Europe 1.
J'ai appris beaucoup de choses avec cet album et j'ai appris un métier aussi parce que c'était pas du tout mon métier quand j'ai commencé. Je m'attendais pas à ce que ça me tombe dessus. Et aujourd'hui, je me sens hyper chanceuse de pouvoir raconter des nouvelles histoires, quoi.
Parmi les tubes de son premier album, le titre « Balance ton quoi » qui a fait d'elle une icône féministe, en plus d'être celle de toute une génération.
Balance ton quoi.
Ça, tu connais.
Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter.
C'est un titre qui l'a propulsée icône féministe des jeunes parce qu'Angèle, elle sait capter l'époque dans ses textes. Elle parle d'abolition des normes sexuelles, elle parle de lucidité face aux réseaux sociaux, elle dénonce le patriarcat, le sexisme, elle s'émancipe des codes d'hier, elle porte les combats menés par sa génération. Je lui ai demandé justement si ce statut d'icône n'était pas un frein à la légèreté dans l'écriture parfois. Écoutez sa réponse.
C'est marrant qu'on parle de ça parce que en écrivant Bruxelles, j'étais certaine que c'était une chanson très légère. Et après, moi, je trouve pas que c'est un problème, la légèreté. Justement, je trouve qu'on a besoin de légèreté encore plus en ce moment. Et en fait, quand la chanson est sortie, j'ai été vraiment surprise de voir à quel point plein de gens m'écrivaient que c'était un texte engagé. Et c'est vrai qu'effectivement, je parle de la Belgique et des problèmes qui ont existé, qui existent encore, quant aux problèmes linguistiques et à tous ces problèmes politiques où on n'a pas de gouvernement. Enfin, des choses assez obscures et difficiles à comprendre, même quand on est belge. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas le sentiment en fait, d'être quelqu'un d'engagé, mais plus le sentiment d'être quelqu'un qui s'exprime sur les sujets qui me viennent et qui me paraissent être assez évidents. Et c'est juste que c'est en parlant de choses engagées, avec légèreté, qu'on arrive à faire passer, je pense, un message.
Avant qu'on entende le disque d'Angèle, son nouveau single, vous voulez annoncer un doc musical très rapidement.
Exactement, qui est diffusé ce soir sur Canal à 22h45 et qui s'appelle « Reine pour l'amour du rap » et qui parle de la condition féminine dans le rap, que je vous recommande.
Ça vous a tenté, Jean-Christophe Ruffin, Angèle? Vous la connaissiez ou pas plus que ça?
Comme ça, mais c'est surtout mes filles qui l'écoutent.
Oui. Bruxelles, je t'aime. Merci Stéphanie Loire. Merci. Bruxelles, je t'aime, c'est Angèle dans Culture Média.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Je t'aime, c'était Angèle sur Europe 1. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray pour ses stories et notre invité Jean-Christophe Ruffin. C'est la dernière partie de l'émission. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Il est médecin, on va en parler tout à l'heure dans un instant. Les Flammes de Pierre, c'est votre nouveau roman. Vous avez une maison près de Saint-Gervais, pas loin de Chamonix, c'est ce que j'ai compris.
Oui.
Vous étiez pendant le confinement ?
Oui.
C'est là que vous avez écrit le livre ?
En partie, oui.
Je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de trajets en hélicoptère dans les Flammes de Pierre. Je vous en parle parce qu'on raconte que là-bas, les gendarmes survolaient les sentiers en hélico la recherche de gens qui marchaient sans masque. C'est une légende ou c'est la réalité ?
Non, pas qu'ils marchaient sans masque, ils marchaient tout court. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez soi et ils ont surveillé la montagne. C'est facile de surveiller la montagne, en fait. Ça coûte cher, mais c'est facile. C'est plus facile que de surveiller des quartiers surpeuplés, etc. Non, là, il n'y avait personne.
Ils n'allaient pas en banlieue. Hein.
Non, et donc peut-être qu'ils avaient peur qu'on refile le Covid au chamois, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, il y avait des hélicos tout le temps. Et j'ai failli me faire attraper, moi, d'ailleurs, parce que, évidemment, bien qu'il y ait les hélicos, on continuait à aller se balader, bien sûr.
Alors, j'ai regardé les chiffres. Le coût de l'heure d'hélico d'un hélicoptère de la Gendarmerie nationale, c'est en gros 1 100 euros de l'heure. Pour tout ça, pour une amende de 135 euros. Je ne vais pas faire de démagogie, mais vous qui êtes médecin, est-ce que cet argent n'aurait pas pu être mieux employé pour la santé publique, j'entends, hein.
C'est certain, et en plus, personne, je crois, leur avait demandé. Même pour l'image de la gendarmerie, qui était plutôt bonne en montagne, parce que c'est, vous savez, c'est le peloton de gendarmerie d'autres montagnes, les secours, etc.
Là, c'est
tout
chic.
D'un coup, ouais, mais là, tout d'un coup, ils ont descendu de trois marches, parce que c'est devenu un peu les... vous savez, les, on avait l'impression d'être au plateau des Glières avec, ou pendant la guerre du Vietnam, vous voyez, avec l'arrivée des hélicos, etc. Enfin, c'était calamiteux, cette histoire.
Je m'adresse aux médecins que vous êtes. Que vous inspire l'actu du jour? Les premières convocations qui tombent pour les médecins et pour les soignants qui ne sont pas vaccinés?
Oui, ben, moi je suis très favorable au vaccin. Donc, de toute façon, je pense que pour les personnels de santé, c'est vraiment indispensable. Donc, après, est-ce qu'il faut. Quelles sanctions il faut appliquer? J'en sais rien. Mais je ne conçois pas bien qu'on fasse ce métier sans accepter ça. Enfin, pour moi, c'est très paradoxal. Donc, voilà. J'ai plutôt tendance à soutenir ça.
Vous continuez à être médecin, à pratiquer la médecine?
Médecin, on le reste quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, c'est le métier qu'on a appris à 20 ans, on n'a pas appris d'autres, même si on a fait d'autres choses. Voilà, alors après, la pratique, non, je suis toujours en lien avec des organisations, en particulier dans l'humanitaire, mais je ne pratique plus la médecine au quotidien. Mais quand on me demande mon métier, je dis toujours médecin.
Médecin. 10h54, mon métier, c'est chef de gare, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebré, où chaque jour, des stars sont là pour notre invité. Aujourd'hui, Jean-Christophe Ruffin, c'est un confrère à vous, justement, un médecin, Michel Simès.
Oui, bonjour à tous. Oui, Philippe, en voyant que votre invité était Jean-Christophe Ruffin, je n'ai pas pu m'empêcher de passer. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un vrai médecin. D'ailleurs, Jean-Christophe, je vous aurais bien demandé de m'écrire un autographe, mais je n'ai pas envie d'être obligé d'aller ensuite chez le pharmacien pour pouvoir le lire. Jean-Christophe Ruffin, vous êtes brillant. En plus d'être médecin et écrivain, vous êtes diplomate. Donc, un conseil, n'utilisez pas un vocabulaire trop compliqué. Je vous rappelle qu'autour de la table, il y a Julia Vignali, Marc-Antoine Lebray et Mélanie Gomez.
Et moi-même. Vous avez de la chance, Jean-Christophe, car Marc-Antoine a réussi à vous acheter des spots de pub pour Europe 1 ce matin.
Carglass répare, Carglass remplace.
Bonjour, c'est Olivier de Carglass. Mon client, Philippe Vandel. Il est venu nous voir avant son émission, car il avait un trou dans sa culture générale de la taille de tous les livres de Jean-Christophe Ruffin. Il nous a demandé si on pouvait faire quelque chose pour lui, et on a été obligé d'être franc. Désolé, monsieur Vandel, mais si vous vouliez quelqu'un dont vous connaissiez toutes les œuvres, fallait inviter Marc Dorcel.
Oh.
Bonne journée.
Oh. Comme j'aime.fr.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Alors, j'ai une toute nouvelle méthode pour perdre du poids. Je lis le livre de Jean-Christophe Ruffin, Les Flammes de Pierre, et je suis tellement transporté dans les sports de haute montagne que j'en ai maigri. Ça, plus le fait qu'à chaque fois que je ne comprends pas un mot, je me lève chercher le dictionnaire, c'est quand même souvent que je ne comprends pas des mots.
Devenez expert avec Oral-B.
Bonjour, c'est Matt Lesgui. Saviez-vous que pour une hygiène bucco-dentaire irréprochable, il est important d'acheter le dernier livre de Jean-Christophe Ruffin? Oui, parce que si vous ne l'achetez pas, je viens chez vous et je vous pète les dents. Oh, bonne journée.
Devenez expert avec Oral-B.
Merci Marc-Antoine Lebray. À demain, Jean-Christophe Ruffin. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir joué le jeu avec humour. Les Flammes de Pierre, ça vient de sortir, ce roman chez Gallimard. Et puis un livre d'entretien avec Fabrice Lardreau, ça parle de montagne, ça s'appelle Montagnes humaines. Et c'est chez Artaud, c'est un autre exercice. Merci encore d'avoir été avec nous. Quoique, vous allez voir, ça va vous intéresser ce qui arrive. Demain, Faustine Bollard sera à 9h pour son magazine bimestriel Entre nous et ses émissions sur France Télé, évidemment. Et puis Sylvie Vartan qui va nous parler de son nouvel album. Merci pour le regard. Elle annonce des concerts en salle Playel à Paris. Juste après le flash, elles sont dans ce studio. C'est pour ça que j'étais heureux que soyez là, Jean-Christophe Ruffin, Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bien fait pour vous, le programme du jour.
On va d'abord parler des produits naturels. Sont-ils vraiment efficaces? Quand je dis naturel, je parle du DIY. C'est Julia, elle a voulu que je le dise parce qu'elle ne sait pas le dire.
Non, c'est DIY.
Do it yourself. Voilà, pour faire ses cosmétiques ou ses produits ménagers maison. On vous donnera quelques recettes et puis on fera le point ensemble.
Par contre, je sais très bien prononcer le mot suivant, c'est hormones. On va parler des hormones. Mais alors, des tas d'hormones, on en a plein. Hein.
Oui.
Des hormones, on va parler de prise de poids, de problèmes de thyroïde ou même de baisse du désir sexuel.
Alors,
des sujets très concernants, je crois.
C'est d'aller en montagne. En général, ça repart très très fort. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
Quelle transition.
C'est ce qu'il raconte dans ce livre. Mais non, si vous lisez le livre, vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de désir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans Culture Média à 9h. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.